Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Érigée en grande cause nationale à l'automne par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, la lutte contre le narcotrafic est aujourd'hui dotée d'une proposition de loi. Ce texte, voté au Sénat il y a quelques jours, prévoit la création d'un parquet national anticriminalité, des mesures anti-blanchiment, une procédure pénale simplifiée ou encore de nouveaux outils pour les enquêteurs. Et il y a urgence. La production mondiale de drogue n'a jamais été aussi importante et les narcotrafiquants font tout pour écouler leurs marchandises. En France, le chiffre d'affaires du trafic de drogue représente entre 3 et 6 milliards d'euros par an. On en voit les conséquences sur la consommation. Depuis le début des années 2000, l'usage de tous les types de drogue dans notre pays a augmenté, parfois de manière exponentielle. Et si le cannabis reste de loin la substance la plus consommée, la cocaïne se retrouve au deuxième rang, suivi de l'ecstasy. Et l'on observe depuis 2010 une augmentation nette de l'usage de nouvelles drogues psychostimulantes et le détournement de médicaments à base d'opiacés. Mais que sont ces nouvelles drogues? Pourquoi une telle augmentation? Quels dangers représentent-elles? Sont-elles très addictives? Qu'est-ce qui est prévu dans la loi pour les consommateurs? Une prévention, notamment à destination des plus jeunes, va-t-elle être mise en place? Et où en est-on de la politique vis-à-vis du cannabis? Pour répondre à toutes ces questions, le professeur Amin Benyamina. Mina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, président de la Fédération française d'addictologie. Alors, je précise d'emblée, pour que ce soit clair, que dans notre pays, les substances addictives les plus consommées restent le tabac et l'alcool devant le cannabis et les autres drogues. Mais aujourd'hui, on parle des produits illicites. Et avant de parler de ces nouvelles drogues, un point sur celles que l'on connaît. Le cannabis continue d'être la première drogue consommé en France?
Oui, absolument, Marina. Et c'est bien de dire parce que les derniers résultats de l'OFDT, l'Observatoire français des tendances addictives, a montré qu'il y a un tassement de la consommation du cannabis et de l'alcool. Simplement, le diable se cache dans les détails. La France reste quand même parmi les pays en Europe et même dans le monde, à travers la jeunesse, à consommer le plus de cannabis. Et puis les profils de consommateurs changent, on en parlera probablement dans l'émission. Rarement on a eu une offre aussi importante, diversifiée, à la fois du cannabis dit naturel, mais aussi synthétique, qui pose problème. Et on a aussi un phénomène qui est difficile à apprécier, mais qui est réel, puisqu'on le voit en clinique, c'est qu'on a affaire à des profils de polyconsommateurs, on a affaire aussi à des âges de consommateurs plus précoces. Et donc ça, c'est intéressant, important, à intégrer pour à la fois les soigner et en même temps, puisque vous l'avez dit Marina, lutter contre ce phénomène qui est problématique.
Alors, on va parler des pénalisations bien sûr tout à l'heure, mais pour l'instant, on fait le point. On a l'impression aujourd'hui que l'image de la cocaïne et même l'image de l'ecstasy s'est banalisée. C'est vrai ou pas?
C'est très juste. Elle s'est banalisée pour une raison liée à une image ancienne qui a la peau dure, c'est que la consommation des psychostimulants a deux effets qui sont faux. Le premier, c'est que ce sont d'abord et avant tout des produits de la performance. Et ce sont des produits qui sont liés à une forme d'élitisme social. L'ecstasy, la cocaïne, qui était au départ cher et qui ne pouvait être consommé, acheté que par des gens qui ont des moyens et qui sont socialement plutôt valorisés. Le monde du showbiz, du spectacle et le monde des médias. Rappelons-nous l'épopée des télés récentes et privées dans les années 80. Et on part du principe que ce sont des produits qui n'entraînent pas ou très peu de dépendance physique.
Et notamment la cocaïne, on pense notamment qu'il n'y a pas de dépendance.
Ce qui est totalement faux. Rarement la cocaïne est prise seule maintenant, c'est un booster, un peu comme les cocktails. Vous avez des cocktails à base de rhum, de vodka, de tequila, c'est un booster. Il se prend rarement seul, il le consomme avec d'autres produits qui augmentent sa dangerosité. Et en même temps, ce sont des produits qui entraînent une très forte dépendance, quasi tyrannique, une très forte dépendance psychologique, que les cliniciens appellent le craving. Donc, ce qui fait la drogue, en vérité, ce n'est pas la dépendance physique, parce que la dépendance physique, quel que soit le produit, on en vient à bout au bout de quelques jours. Ce qui est terrible, ce qui rend les gens dépendants, et qui fait de cette pathologie une pathologie chronique, c'est l'envie de consommer ce qu'on appelle le craving. Et là, ce sont des produits qui sont extrêmement, extrêmement puissant là-dessus.
Alors, à ces drogues classiques se sont ajoutées depuis une dizaine d'années, je le disais, de nouveaux produits, des substances qui imitent les effets de drogues plus identifiées comme le cannabis, le LSD, la cocaïne, l'ecstasy, les amphétamines. Elles sont majoritairement vendues sur Internet avec des noms très enchanteurs, le sel de bain, cocaïne rose, ice, PTC pour pète ton crâne, qui concerne beaucoup les plus jeunes. Et un chiffre, depuis 2015, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies détecte 400 nouveaux produits chaque année. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils contournent la législation sur les stupéfiants. Comment c'est possible?
Bah, le, Le gros enjeu actuellement pour lutter contre la problématique des drogues, c'est les drogues de synthèse, pour une raison toute simple. Elles miment les drogues naturelles avec un pouvoir addictogène qui est extrêmement élevé, puisqu'elles sont, elles sont extrêmement puissantes, et puis elles sont vendues, elles sont fabriquées dans des laboratoires loin de la France. Bon, les plus proches, ce sont les Hollandais, mais la plupart du temps, c'est au niveau de l'Asie. Et elles arrivent avec des noms particuliers. Voilà, vous l'avez dit, pète ton crâne. Voilà. Ce sont essentiellement des produits qui sont psychostimulants ou alors fortement sédatifs. Le pète ton crâne, actuellement, pose problème. Hein. Le pète ton crâne, c'est quoi? C'est du cannabis deux fois plus dosé et qui est consommé dans un dispositif de vapotage sous forme de liquide et qui va entraîner des tableaux de dépendance et des tableaux psychiatriques extrêmement puissants. Alors, ces produits arrivent, bien que analysés par la police et la douane, ils ne sont pas inscrits dans la liste des produits interdit parce que il suffit de finalement de changer sur le plan chimique un radical ou bien une liaison chimique pour que ça ne rentre pas finalement dans la liste des produits prohibés. Et donc c'est une course infernale qu'on perd et qu'on perdra tout le temps. Donc on est devant un enjeu extrêmement important et ce sont des produits très dangereux.
Très dangereux et j'ai dit vendus sur internet, donc facile à obtenir, oui. Et en plus moins cher.
Alors vendus sur internet, c'est le lieu de deal. Lorsque
mais c'est sur le darknet, c'est
le darknet, parfois même pas, vous avez sur des réseaux sociaux sous forme, donc on peut les citer, Instagram, TikTok, Snapchat.
Ah oui.
Ils y sont, il y a vraiment une culture de l'offre et de la demande. On est dans un système capitaliste d'offres qui peut être celui d'un produit qui n'est pas interdit.
Donc on commande sur un réseau connu et on reçoit ça par courrier chez soi?
Par courrier, vous êtes livré, vous pouvez avoir des personnes qui vous livrent. Et d'ailleurs, ce système a explosé, il s'est organisé, il s'est professionnalisé au cours du Covid. Parce que les gens ne sortaient pas, ils étaient livrés à la maison. On est sur des choses de cette nature. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, puisque le ministre de l'Intérieur parle, il veut mettre de l'ordre, il est dans son rôle.
On va y revenir, bien
voilà,
sûr.
Donc, lorsqu'on a un point de deal qui est démantelé, vous en avez 1000 qui ne le sont pas, parce que ce sont des points de deal digitaux.
Le fait qu'elle soit synthétique et facile à produire, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on peut augmenter la puissance du produit facilement?
C'est même le but. Le principe même du commerce, c'est d'accrocher les gens. C'est les fidéliser. On peut les fidéliser par le prix, c'est le cas, parce qu'il y a une vraie concurrence, mais on les fidélise aussi par les effets et par, hélas, la dépendance. Lorsque vous avez des produits qui sont fortement addictogènes, vous avez affaire à une population qui est captive, biologiquement captive. C'est le cas. On augmente. Évidemment, les gens, quand ils mettent ces produits sur le marché, ce ne sont pas des manias de la santé publique. Leur but, c'est d'accrocher, de rendre dépendant et de pouvoir continuer à fidéliser les personnes.
Est-ce qu'avec ces nouveaux produits aujourd'hui, ça a changé le profil? Est-ce que ça touche maintenant toutes les couches sociales, tous les âges, ou ça reste quand même encore, j'allais dire, dans un certain secteur?
Alors, je vais être vraiment pessimiste pour un samedi matin. Je suis désolé, Marina, ça touche tout le monde. Hommes, femmes, toutes les couches sociales. Pour des raisons évidentes, parce que il y a une diffusion, une masse de produits qui circulent, qui est monstrueuse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le prix a baissé et la qualité a augmenté. La qualité au sens, vous savez, l'OFDT a parlé de cocaïne pure. On peut arriver jusqu'à 99% de pureté pour la cocaïne. C'est le cas des autres produits de synthèse. On est sur quelque chose qui a diffusé dans toute la société.
Et en dehors du cannabis, dont on sait qu'on est des grands consommateurs, nos voisins européens ont les mêmes problèmes de consommation, de hausse des produits de synthèse?
Pareil. On a quand même des ports en Europe qui sont la porte d'entrée et la porte de livraison, finalement, de ces produits qui viennent d'Amérique latine la plupart du temps. Et puis la France, elle peut recevoir aussi des produits qui arrivent par l'Afrique et qui remontent, notamment les opiacés. La même diffusion, les mêmes problèmes. Je vous rappelle qu'il y a deux jours, on a eu quand même une scène totalement folle avec des dealers ou bien avec des kalachnikovs en plein centre de Bruxelles. On a affaire à un problème de cette nature. En revanche, en France, on a les mesures, et dans les autres pays, on a pris des mesures différentes et audacieuses qu'en France, on n'a pas encore décidé de faire.
On va en parler de ça. On continue tout de suite sur les dangers de ces nouvelles drogues. Des experts estiment que beaucoup d'entre elles sont plus puissantes, plus dangereuses et plus addictives que les drogues qu'elles imitent. On en parle tout de suite. Carnet de santé consacré aujourd'hui à la consommation de drogues en hausse dans notre pays, notamment à ces nouvelles drogues psychostimulantes qui émergent de plus en plus, coûtent moins cher et sont faciles à obtenir. Pour en parler, le professeur Amine Benyamina, psychiatre addictologue. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'une d'entre elles, hein, très utilisée lors des pratiques de chemsex, donc de consommation de substances psychoactives en contexte sexuel, c'est la 3-MMC. Est-ce que son usage maintenant se banalise dans d'autres contextes que le chemsex, où ça reste localisé?
J'ai remis un rapport sur le chemsex au ministre Olivier Véran à l'époque de la Santé et il m'avait sollicité parce que à l'époque on avait des signaux faibles mais des signaux qui montraient que la pratique et la consommation de ces produits sortaient du milieu gay. Je rappelle assez rapidement, le chemsex, c'est une pratique qui est arrivée dans le milieu gay londonien il y a une quinzaine d'années, avec ses us et ses coutumes. Et en même temps, à l'époque, les personnes qui consommaient ces produits, la 3MMC étant le chef de file des catinones, hein, ce sont des psychostimulants empathogènes, augmentation du plaisir, diminution de la fatigue, avaient aussi ce qu'on appelle des facteurs de protection. Il y avait des règles de consommation. Lorsque cette pratique a quitté Londres, hein, pour ne pas voilà, est arrivée dans d'autres villes, notamment à Paris, on a amené les produits, mais on n'a pas amené les facteurs de protection. Et donc aussi bien dans les milieux gays français que dans les milieux hétéros, on a privilégier l'hyperconsommation, mais on n'a pas pris les mesures qui vont avec. Et donc, on a affaire à des choses, à une consommation, une pratique qui maintenant concerne non pas le milieu gay, mais le milieu de la nuit et de la jeunesse. Et il n'est pas étonnant d'avoir affaire à, dans ma consultation, à des personnes qui ne sont pas des adeptes du chemsex, mais qui utilisent la 3MMC, qui est une consommation qui rend très vite addict et qui est une consommation qui vient d'une certaine manière un peu leurrer les capacités à la fois d'échange et les capacités sexuelles. On est sur un phénomène qui est problématique.
Et concernant justement la sexualité, il y a un risque du coup de se mettre en danger ?
Alors, la mise en danger pour soi et pour autrui, donc on peut être victime et acteur d'une violence sexuelle. Il y a des cas de perte de contrôle dans la pratique sexuelle, même s'il y a un consentement, il peut y avoir on a eu des cas de violence. Et pour le coup, on peut prendre des risques, notamment sur les risques, sur les sanges de seringue, sur les problématiques de contamination qu'on avait banni et qu'on a vu disparaître il y a une vingtaine d'années. Donc il y a un retour des risques de contamination, notamment sur les maladies type hépatite ou bien HIV.
On a parlé de la 3MMC. On l'a dit, il y a des centaines de drogues de synthèse et nouveaux produits qui arrivent sans cesse. Est-ce qu'on constate autant d'overdoses, d'addictions qu'avec les produits initiaux ou pas ?
On peut en trouver. On n'a pas explosé le risque. Il faut dire les choses qu'il en est. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les overdoses, si on est stricto sensu dans la définition, ça concerne les opiacés. Et là-dessus, attention, la France reste malgré tout protégée par rapport à l'épidémie d'overdose en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. On est à plus de 400 000 personnes qui ont perdu la vie parce que on a un système qui fait que il n'y a pas cette couverture sociale, il n'y a pas cette information que l'on a en France, notamment à travers des produits extrêmement dosés comme le fentanyl, l'oxycodone. L'actualité, évidemment.
Ça, c'est pas arrivé chez nous ?
Non. Alors, on a quand même doublé les overdoses. Mm-hmm. Parce qu'on peut pas se prévenir de manière vertigineuse contre les effets qui viennent d'ailleurs. Nous, on a un problème, par exemple, avec le tramadol, qui est un médicament à base d'opiacés, qui est prescrit sans véritable connaissance, parfois, par un certain nombre de nos collègues, qui méritent, évidemment, pour lesquels il est utile d'avoir une information, qui est assez rapidement détournée, finalement, malgré la bonne foi des personnes qui les consomment, parce qu'il y a dans ce produit, et c'est important, je le dis vraiment pour que les auditeurs le comprennent, il y a un effet antalgique, antidouleur, mais surtout il y a un effet un peu antidépresseur qui fait qu'on s'accroche assez vite à ce produit, parce qu'il rappelle un peu l'effet sérotoninergique des antidépresseurs. On a un problème avec le tramadol, c'est une réalité.
On a aussi une autre molécule, le Lyrica, qui est une molécule qui agit notamment sur les douleurs neuropathiques.
Complètement.
Et qui est détournée aussi.
Alors c'est un produit qui a une histoire intéressante, parce que c'est un produit qui n'était pas détourné en France, qui est arrivé avec les populations qui viennent des pays du Maghreb et du Golfe Persique, où il était détourné. Alors, quand on voit cette molécule, sur le plan chimique, on se demande comment se fait-il qu'elle peut avoir un effet de dépendance. Mais assez rapidement, par un effet indirect, ça devient un produit addictogène. Et il faut l'avoir en tête, ce produit est souvent mélangé à d'autres produits, notamment les benzodiazépines et l'alcool. Et d'ailleurs, lorsqu'il est mélangé à de l'alcool, notamment lié à des populations immigrées sans papiers, qui n'ont pas souvent la possibilité de se soigner tranquillement sur ce produit, ils appellent ça le missile, c'est lourd. Et donc ça a un effet décuplé lorsque vous le mélangez à l'alcool. Et donc on a un effet pregabaline, Lyrica, qui est réel. Alors Lyrica étant le produit, le nom commercial, la pregabaline est la DCI.
Que faire face à ces nouvelles drogues, cette hausse de consommation et ces nouveaux consommateurs? Alors, on l'a dit, il y a un projet de loi pour lutter contre le narcotrafic qui a été proposé. Et dans le même temps, l'ancien ministre de la Justice, Didier Migaud, disait vouloir créer un électrochoc sur le sujet, viser les consommateurs notamment. Je le cite, il faut une action sur les consommateurs sans qui il n'y a pas de trafic de stupéfiants, donc de réseaux, donc de criminalité organisée. Il poursuit, on le sait, il y a des amendes, il faut qu'elles soient davantage prononcées, systématiquement recouvrées. Qu'en pensez-vous? C'est ça la solution?
Je crois pas. À mon avis, une politique drogue doit marcher sur ses deux jambes. D'abord, évidemment, les ministres de la Justice, de l'Intérieur, ils sont dans leur rôle, mais ils doivent rester dans leur rôle. Les consommateurs, ce ne sont pas des délinquants, si, ils sont délinquants quand ils consomment des produits interdits, on est bien d'accord. Lorsque c'est un phénomène qui touche autant la société, qu'il diffuse autant, qu'il infiltre autant la société, la première des choses à faire, c'est une information. Et on n'a pas d'information. La prévention passe par l'information des effets des produits.
C'est ce que vous appelez les pouvoirs publics à s'emparer du problème avec une politique globale.
Complètement,
justement,
une politique globale.
Avec information, prévention.
Information, prévention. C'est extrêmement important. Si on prévient pas les gens, je pense que les gens parfois... Vous savez que moi j'ai des jeunes dans ma consultation qui ignorent que le cannabis est un produit interdit. Certains disent, bon, je prends des extasies, mais bon, c'est pas une vraie drogue, ça me stimule. Je pense qu'il est très important d'informer. On gagnera par contingence. Et par contingent. On a un delta qui va commencer à s'informer, qui va dire, bon, je ne veux pas participer sur le plan éthique à ce qui se passe, d'autres un peu moins. Et puis quand on arrive dans le culot des gens malades, on les soigne, et puis les délinquants, eh bien, ils répondront, et les trafiquants répondront au dispositif qui est mis en place. Je pense que la culpabilisation, j'ai entendu ça hier ou avant-hier,
oui, effectivement,
ça, c'est limite.
Bruno Retailleau donc, qui a présenté cette semaine une campagne visant les consommateurs de drogue. Prendre un joint, c'est avoir du sang sur les mains. C'est une campagne de culpabilisation.
Évidemment, on essaie de faire
une campagne. On parlera bien sûr des pénalisations, mais c'est un message qui veut dire effectivement ce que veut faire la politique gouvernementale.
Pardonnez-moi de vous dire que les Français n'aiment pas ça. Le Français est plutôt retors, quelque part. Quand on veut le culpabiliser, il entend infantiliser. Voilà, donc dans ces conditions, on va avoir une forme de défiance. La loi doit passer. La violence doit cesser. Mais comment y arriver? Je pense qu'on y arrive lorsqu'on marche de manière claire sur l'ensemble des couloirs que nous offre cet enjeu mondial. Et la France n'est pas un pays isolé.
Le ministère de la Santé est impliqué dans cette loi ou pas?
Je l'espère. Moi, je l'attends. Je tends la main.
On n'a pas vu de volet pour l'instant.
Oui,
santé.
Moi, je tends la main à la santé, au ministre de la Santé, en tant que président de la Fédération française d'addictologie, pour travailler ensemble sur une politique de prévention, sur une offre, sur une vraie information. Il faut arrêter de penser que parce que les produits sont interdits, on n'a rien à dire. Autant dire, quand les produits ne sont pas interdits, on est suffisamment au-dessous de l'enjeu. Je parle de l'alcool, avec 42 000 morts. Je pense qu'on est au-dessous de l'enjeu de morbidité lié à l'alcool. On fait beaucoup sur le tabac, et tant mieux, 78 000 morts, quid des autres produits. On a un phénomène qui est croissant, sur lequel on n'est pas au rendez-vous. Il faut vraiment qu'on se bouge.
C'est pas la même culture.
On est d'accord. Lorsqu'il n'y a pas de vin en France, il y a de la bière. Donc on est sur des cultures différentes. Il faut vraiment, sans démagogie et sans mentir, prendre la question de la santé publique concernant les drogues à bras-le-corps. Vraiment, vraiment. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas des coups à prendre. C'est pas un lobby qui doit dicter. Hein.
Et notamment, vous dites qu'il faut surtout informer sans jugement moral. Là, c'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Sans jugement moral, c'est surtout sans culpabiliser, sans juger le consommateur. C'est important d'arriver à cette éthique de la prise en charge.
Il faut le faire. On verra. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. On va voir ce que va donner ce clip de culpabilisation. Je répète, le ministre de l'Intérieur est là, il a un vrai problème. C'est vrai que tous les jours, on a des morts. Tous les jours, on a des fusillades. C'est très juste. Je pense qu'à un moment ou un autre, j'attends des signaux de la part du ministère de la Santé sur cette question de pédagogie des Français. On a des agences qui peuvent le faire, hein.
Le 9 mars 2023, il y avait un plan national de mobilisation contre les addictions qui avait été adopté. Ça disait quoi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça nous a fait avancer?
Je vois rien. Honnêtement, moi j'aurais souhaité que d'abord, première des choses, que l'addiction soit citée au même titre que la psychiatrie pour la grande cause de sa santé mentale. Je vous rappelle que quand même, on est à l'intérieur et à l'extérieur à santé mentale. Je n'ai pas cessé de demander aux équipes du gouvernement Barnier, en tant que président de la FFA, de nous intégrer dans la grande cause de santé mentale. pourquoi ne sommes-nous pas dans cette grande cause?
Ah, vous n'êtes pas dans la grande cause?
Ah ben non.
D'accord.
J'ai demandé à ce que ça apparaisse, que les addictions soient citées. Pourquoi on n'y est pas? Vous savez que quand même, lorsqu'on a une pathologie addictive, la comorbidité psychiatrique, ce n'est pas une exception, c'est une règle. C'est une règle. Je ne dis pas qu'il y a un lien direct sur le plan, comme on dit, éthiopathogénique, pour ne pas parler français. Mais pourquoi on n'y est pas? Pourquoi on n'y est pas? Je pense que ça fait partie... Ça nous dit ce rapport de déni que la société peut avoir vis-à-vis des problèmes d'addiction. On a tous quelqu'un autour de nous qui a un problème d'alcool ou bien de drogue. Tous. Si ce n'est pas la famille, c'est un ami. Si ce n'est pas un ami, c'est un proche ou un voisin. Mais on est sur un déni généralisé où très clairement, entre l'observation et la mise en place, il y a un raft, il y a un clivage, il y a un trou.
Alors c'est vrai que vous ne cessez d'alerter les pouvoirs publics sans que grand-chose n'avance. Est-ce qu'il y a pour expliquer cela notamment des questions qui dérangent? L'une d'entre elles étant celle de la dépénalisation de l'usage des drogues. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Carnet de santé consacré aujourd'hui aux drogues illicites et aux solutions pour faire face à la production qui flambe, à la consommation en hausse et aux nouvelles drogues sans cesse produites. Avec nous le professeur Amine Beniamina, psychiatre, addictologue, président de la Fédération française d'addictologie. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, avec Thomas Jost à la réalisation, Ludovic Auger à la technique, Félix Delacour à la vidéo. Alors je le disais, la question de la dépénalisation du cannabis récréatif est toujours aussi sensible dans notre pays. Elle divise les médecins, les autorités, la population. Il faut rappeler que la législation actuelle date de 70, que nous sommes un des pays les plus consommateurs d'Europe, et vous faites partie de ceux qui sont favorables à cette dépénalisation, justement comme outil de prévention. Expliquez-nous ça.
Alors d'abord, un petit point historique. Le cannabis a été introduit comme un produit interdit par la loi 70, sur une pression de la part des lobbies américains du commerce. Ça, c'est important, on l'oublie. Et la nocivité du cannabis a été assimilée à celle de l'héroïne à l'époque. Rappelez-vous, les années 70, c'était la mort d'une jeune fille de 15 ans dans une boîte de nuit et qui a lancé finalement l'addictologie avec le professeur Claude Lievenstein qui a ouvert le premier centre à Marmottan. Mmh. Voilà l'histoire de la France. Et depuis, on reproduit de manière, cette évocation de manière répétitive, l'interdiction de la consommation du cannabis. Je peux comprendre, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les jeunes des années 70 ne sont pas les jeunes de 2025. Il y a une observation sociologique qui mérite d'être rappelée. Qu'est-ce qui se passe? Dans le monde, on a vu que le cannabis a inondé la planète. Des pays ont dit, puisqu'on n'arrive pas à contrôler l'émetteur, ce sont des pays qui produisent, et on va agir au prix du récepteur. Le récepteur, c'est celui qui consomme. On a des jeunes chez lesquels il est important de ne pas consommer le cannabis parce qu'on connaît la morbidité psychiatrique et cognitive, c'est-à-dire les problématiques scolaires, tout ça. Donc, on va interdire le cannabis au-delà de 22-23 ans. 18, 19, 20, 22, 23, pourquoi? Parce qu'il y a une maturation du cerveau qui va au-delà. Il y a des pays pragmatiques, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, a changé le cadre légal pour d'abord se concentrer sur les jeunes, se concentrer sur les trafics et, en gros, mettre un cadre légal qui permettent aux personnes qui n'ont pas de difficulté de consommer du cannabis sans avoir recours aux trafiquants, sans enrichir le trafic. Je répète encore une fois, la prohibition est le moteur de la consommation. En France, on a une position dogmatique qui ne veut pas changer le cadre. Je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas reproduire le modèle américain, allemand ou canadien. Travaillons sur un modèle français, le CESE, a produit un rapport qui est fantastique. Des parlementaires comme Caroline Janvier a travaillé là-dessus pour dire arrêtons, cette prohibition est en train de grossir les trafics. Donc un tout petit peu de changement légal qui permette de venir à côté finalement de la répression, de la prévention, pour pouvoir à un moment ou à un autre sortir de ce marasme dans lequel on se trouve.
Mais les détracteurs de cette dépénalisation parlent d'un risque de plus grande consommation. Est-ce que c'est ça qu'on constate dans les pays qui ont dépénalisé ou légalisé?
Non, c'est faux. On n'a pas augmenté la consommation chez les jeunes au Canada, on ne l'a pas augmenté en Allemagne. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, un phénomène intéressant, c'est un modèle qui est mercantile. Quand on a légalisé, évidemment, on a commencé à faire un folklore à l'américaine, du merchandising. Et puis par contre, les Américains étant pragmatiques, d'État en État, on a vu des circulations de personnes pour aller acheter le cannabis. Ensuite, on a mis une loi qui est intéressante, qui s'est adaptée, qui a nettoyé, qui est ajusté, et puis ça va, c'est pas plus mal. Et puis le produit qui est proposé, c'est un produit qui est propre.
Qui peut donc être, qui peut être vérifié.
Qui est vérifié, qui n'est pas hyperdosé, on en parlait en début d'émission, et on a des registres de suivi des gens qui consomment. On est sur un vrai déni en France, parce que, hélas, je le répète, le cannabis, ce n'est pas un produit de santé publique sur lequel on réfléchit, c'est un produit de clivage politique, et ça, c'est dangereux. Depuis le départ, l'histoire du cannabis en France est devenue un enjeu politique, une espèce de frontière qui sépare les gens de gauche, de droite, du centre, ce qui est faux. Ce qui est faux.
Autre argument quand même, légaliser pour les détracteurs, c'est envoyer un message d'innocuité. Oui. Et comme on sait, disent les détracteurs, que consommer du cannabis, c'est le premier pas vers la consommation de produits plus dangereux, c'est effectivement ce message d'innocuité qui est dangereux.
Alors, je vais répondre tout simplement. On est un pays producteur de vin et on est un pays grand producteur d'alcool. Cet alcool n'est pas interdit. Et l'alcool tue. L'alcool tue 42 000 personnes tous les ans. Toute prise d'alcool est associée à un risque élevé. Donc l'innocuité et la dangerosité n'a rien à voir finalement avec le caractère licite ou illicite. Il faut que les Français ne soient pas victimes d'une manipulation, finalement d'une utilisation de leur peur à des fins finalement partisanes. Ce qui n'est pas notre cas.
Un mot sur le cannabis médical qui est autorisé dans 21 des 27 États de l'Union européenne, qui pourrait être efficace face à certaines pathologies, des douleurs chroniques, des tremblements liés à la maladie de Parkinson, face aux effets secondaires d'une chimiothérapie, testée notamment aussi sur les patients atteints de sclérose en plaques. Il y a une expérimentation qui a été votée par l'Assemblée nationale en 2019 en France, qui s'est achevée très récemment le 31 décembre 2024. Les résultats semblent quand même assez pertinents. Bon, il faut dire que depuis, il y a quand même 8 ministres de la Santé qui se sont succédés. C'est quand même compliqué. Et les patients, honnêtement, là, qui n'ont plus ce traitement, ils attendent, ils ne comprennent pas pourquoi on n'ouvre pas maintenant la possibilité dans ce cadre très sécurisé.
C'est l'exemple typique du caractère à la fois frileux et compliqué des pouvoirs publics lorsqu'une expérimentation marche. Je rappelle que c'est une expérimentation, c'est pas un essai clinique. Tous les voyants sont au vert depuis déjà quelques années, même. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour qu'on puisse faire bénéficier, continuer à faire bénéficier, une niche de personnes qui vont très mal. On ne le fait pas.
On n'a pas d'autre solution pour eux. Hein.
Je crois que le ministre actuel a signé un décret, et ça montre le caractère pragmatique, c'est peut-être parce qu'il est médecin, qui connaît un peu la littérature, il est cardiologue, bon, je vous le rappelle. Donc je pense que là, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut tout de suite y aller. Il faut arrêter d'utiliser finalement le terme cannabis comme l'utilisent les détracteurs, partant du principe que le cannabis thérapeutique, c'est le cheval de Troie de la légalisation. Tout est faux. C'est comme si moi, je vous disais, on arrête de produire finalement les anesthésiques à base d'opiacés parce que derrière, il y a l'héroïne. C'est le même raisonnement. Donc attention, et je vous remercie de me donner la parole ce matin, ce peu de pédagogie qu'on fait ce matin, on devrait le faire à un niveau national.
J'ai l'impression, moi, de vous entendre vous battre depuis des années. Vous êtes optimiste ou pas? Parce que quand on voit effectivement la hausse de consommation, les nouveaux produits, on a de quoi être pessimiste. Est-ce que, qu'il faut effectivement changer sûrement la façon de concevoir la prise en charge, notamment des consommateurs? Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste?
Alors, je le reste, évidemment, sinon je ne serais pas là un samedi matin. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut avoir en tête le fait que la France n'est pas un pays isolé. La France n'est pas plus intelligente que les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. On n'a pas de leçons à leur donner sur les enjeux et les virages qu'il faut prendre. Je répète qu'il faut travailler à la fois avec la sécurité, mais surtout, on oublie souvent la santé. J'aurais tellement aimé que ce ministère soit un ministère de plein exercice, par exemple.
Message passé. Merci beaucoup d'être venu, professeur Mediamina.